Chers amis, chers camarades, je tiens d'abord à saluer ceux qui nous ont rejoints ce dimanche à la fête lyonnaise de lutte ouvrière. Malgré la crise sanitaire, malgré les complications et les inquiétudes qu'elle provoque, nous avons pu tenir cette fête. Nous pouvons en être fiers, et cela fait chaud au cœur, de pouvoir nous retrouver dans cette ambiance fraternelle pour discuter des voies et des moyens de défendre nos intérêts. Nous sommes peut-être masqués, mais nous ne sommes pas muselés.
Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur la deuxième vague de Covid. Les médias égrènent de nouveau le décompte des hospitalisations.
Mais la vague qui nous menace le plus gravement, c'est celle des plans de licenciement. C'est celle qui fabrique des chômeurs par dizaines de milliers. C'est l'offensive patronale pour aggraver l'exploitation. On pourrait dresser la carte des départements classés en zone rouge, parce qu'ils dépassent la moyenne nationale quant au nombre de chômeurs, ou parce que les associations caritatives sont débordées par les demandes d'aide humanitaire, alimentaire. Les annonces de licenciements pleuvent. Bridgestone a jeté une bombe en annonçant la fermeture de son usine de Béthune avec 850 ouvriers. Ici, à Saint-Priest, Renault Trucks a annoncé la suppression de 450 emplois dans son secteur recherche et développement. General Electric s'apprête à en supprimer 750 en France, dont la moitié de l'effectif de Villeurbanne. Mardi, c'est le laboratoire Gifrère à Décines qui annonce la suppression de 125 emplois.
Même les secteurs pour qui la crise est une opportunité de développement suppriment des postes. Ainsi, le groupe pharmaceutique Sanofi, qui réalise chaque année entre 5 et 7 milliards d'euros de profit et touche des centaines de millions de subventions de l'État, supprime 1700 emplois. JTEC, équipementier automobile, dont le siège est à Irigny, annonce 650 suppressions d'emplois en Europe. JTEC n'est pas une PME. Elle appartient au géant Toyota. Pour justifier cette saignée, ses dirigeants invoquent les constructeurs automobiles de plus en plus agressifs sur les prix. Cette agressivité sert bien sûr de prétexte, mais elle est révélatrice de la guerre féroce que se livrent entre eux les capitalistes à la tête des grandes entreprises pour préserver coûte que coûte leur rentabilité. Cette guerre se répercute sur les sous-traitants, leurs fournisseurs. Elle provoque des faillites en cascade dans des PME ou chez les artisans. Mais ce sont bien sûr les travailleurs qui paient au prix fort cette guerre économique. L'un des outils utilisés par les patrons pour attaquer nos droits et nos salaires s'appelle accord de performance collective. Ces accords sont un grossier chantage. Soit les salariés acceptent de perdre des jours de congé, des primes, le 13e mois, de travailler plus longtemps, soit leurs patrons menacent de licencier ou de fermer l'entreprise. Les APC sont bien sûr des marchés de dupes. La liste est longue des usines qui ont fermé après que les travailleurs aient accepté de gré ou de force de sacrifier une partie de leur salaire ou de rallonger leur journée de travail. On peut citer Bosch à Vénissieux, l'une des premières usines où de tels accords avaient été acceptés et qui a fini par fermer. Céder aux maîtres chanteurs ne protège jamais. Le coronavirus a mis en lumière l'état d'un système économique profondément malade. Il a accéléré une crise qui était latente. L'économie mondiale n'a pourtant pas subi une guerre mondiale qui aurait détruit des usines. Dans un système économique rationnel, la production et les échanges pourraient redémarrer sans casse après un court arrêt. Les marchandises et les capitaux accumulés pendant les années de croissance devrait permettre de tenir plusieurs mois sans produire ce qui n'est pas essentiel à la vie quotidienne. Mais l'économie capitaliste est tout sauf rationnelle. Les capitaux appartiennent à une toute petite minorité de capitalistes privés. Cette minorité possède les moyens de production, le transport, de distribution. Ces capitalistes sont tous à la recherche des coûts de production les plus bas,
des fournisseurs les moins chers, de la clientèle la plus nombreuse. Pour eux, la crise du coronavirus est une formidable opportunité pour racheter ou faire disparaître leurs concurrents.
Il y a aujourd'hui une guerre implacable entre Boeing et Airbus pour savoir lequel survivra au ralentissement du trafic aérien. Dans la distribution de l'eau et la gestion des déchets, Veolia a mis 10 milliards d'euros sur la table pour racheter son concurrent Suez. Certains vont couler, d'autres vont être absorbés. Comme le formulait un économiste en vue, il faut se préparer à une phase du durcissement du capitalisme. Pour aider les patrons à faire face à la crise, les gouvernements ont ouvert les cordons de la bourse. Cela a démarré dès le mois de mars par des crédits illimités aux entreprises.
Au moment où les hôpitaux étaient débordés à cause des années de coupes budgétaires,
l'urgence pour Macron et le maire était de garantir, quoi qu'il en coûte, la trésorerie des entreprises, c'est-à-dire leurs profits.
Il y a deux semaines, Macron et Castex ont présenté leur plan de relance. Ce plan, c'est Noël en septembre. 100 milliards d'euros de cadeaux, de baisses d'impôts, d'investissements réalisés par la collectivité. Castex et le maire ont été clairs. Ces milliards sont offerts sans condition, sans contrainte, sans engagement de la part des entreprises. C'est une preuve d'amour au patron, une façon de leur dire « Faites ce que vous voulez de cet argent, nous sommes derrière vous ». Depuis toujours, les capitalistes justifient leur marche par les risques qu'ils prendraient.
Même dans la jeunesse du capitaliste, c'était déjà un mensonge.
Des lignes de chemin de fer à la construction des réseaux téléphoniques, c'est toujours l'État qui a financé les investissements pour le compte de la bourgeoisie. Mais aujourd'hui, l'État n'est plus seulement une béquille pour les capitalistes. Il leur fournit un dispositif de perfusion intraveineuse pour maintenir en vie une classe devenue sénile. Tous les risques, tous les coûts sont assumés par l'État. Les capitalistes ne se donnent même plus la peine d'investir dans la production. Ils récupèrent directement les profits.
Dans un secteur comme la pharmacie,
les laboratoires prennent prétexte des coûts de la recherche pour vendre les vaccins
ou les médicaments à des prix prohibitifs.
Mais ce sont les États qui assument les coûts de la recherche.
Avec le CICE ou le CIR, deux crédits d'impôt qui rapportent gros, Sanofi, Merckx et les autres empochent des centaines de millions chaque année. Mais cela ne leur suffit pas. Pour développer en urgence le vaccin contre le Covid, vaccin qui rapportera un pactole à ceux qui le produiront en premier, les laboratoires vont exiger que les États paient d'avance. Ainsi, seuls les riches des pays riches pourront y accéder. En 2008, lors de la crise financière, les États et les banques centrales avaient débloqué les milliards par milliers. Sous prétexte de rembourser leurs dettes astronomiques, contractés pour sauver les banques, les États ont taillé dans les services publics, fermé des lits dans les hôpitaux, réduit les pensions de retraite. Avec les milliards reçus, les banques ont continué à spéculer. En 2020, il en ira comme en 2008, mais en pire, parce que les sommes mises à disposition des capitalistes sont encore plus colossales. En pire, parce que les milliards versés ne concernent pas seulement les banques, mais aussi les industriels, la grande distribution, le transport. La spéculation concerne tous les secteurs, de la santé à la finance. Il est significatif qu'au moment où les taux de chômage explosent, au moment où des secteurs entiers de l'économie restent à l'arrêt, les bourses sont reparties à la hausse. Le monde s'écroule, mais pour la petite poignée de grandes fortunes qui dominent l'économie mondiale, ça va de mieux en mieux.
La bourgeoisie est vraiment devenue, comme la noblesse à Versailles, la veille de la Révolution française,
une classe parasitaire, une entrave à l'épanouissement du reste de la société, une classe dont il faut se débarrasser au plus vite. « La guerre économique entre les grands groupes industriels ou financiers ne provoque pas seulement la ruine de fractions entières de la société. Elle renforce le protectionnisme et les rivalités nationales. Au-delà des calculs politiciens à court terme d'un Trump, les relations internationales se tendent. Plus que jamais, on peut reprendre la formule de Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Depuis plusieurs semaines, la tension monte aux portes de l'Europe entre la Turquie et la Grèce. La cause immédiate est l'accès aux gisements de gaz découverts en Méditerranée. Le président turc Erdogan a envoyé un navire de prospection accompagné de bateaux militaires dans une zone maritime appartenant à la Grèce. D'un côté, les frontières entre les deux pays ont été imposées à la Turquie lors des traités. Comme toutes les frontières du Moyen-Orient, elles sont le fruit du dépeçage de l'Empire ottoman par les grandes puissances il y a 100 ans. De l'autre côté, Erdogan en rajoute dans le nationalisme. Pour faire oublier la crise, l'inflation et le chômage que subit durement la population turque, pour faire oublier ses déboires politiques, il multiplie les postures guerrières en Méditerranée, en Libye, en Syrie. Macron, lui, a immédiatement choisi son camp. Il a envoyé des frégates patrouiller aux côtés de la marine grecque. Dès qu'une odeur de gaz, de pétrole se fait sentir en Libye ou en Méditerranée, l'État français accourt pour défendre les intérêts de Total. Florence Parly, ministre des Armées, s'occupe, elle, des intérêts de Dassault. Elle vient de finaliser, avec le gouvernement grec, la commande de 18 avions Rafale. Les hôpitaux grecs sont en ruine, les services publics démolis. La population subit toujours un plan d'austérité, mais le gouvernement grec va trouver plusieurs milliards pour acheter des rafales, des frégates et des lance-torpilles. Face à Erdogan, comme face aux dirigeants libanais, Macron a étalé la condescendance du chef d'une puissance impérialiste qui prétend donner des leçons de démocratie à toute la planète. C'est d'autant plus risible et cynique que les puissances européennes, la France en tête, ont été les parrains et les alliés des dirigeants politiques, des dictateurs qu'elles dénoncent aujourd'hui. Le mépris de Macron a donné à Erdogan l'occasion de le moucher. Il lui a renvoyé à la figure la responsabilité de l'impérialisme français dans la guerre d'Algérie ou dans le génocide du Rwanda. Cette responsabilité est incontestable. Nous ne devons pas l'oublier. Les travailleurs de ce pays doivent dénoncer et combattre la politique criminelle en Afrique ou ailleurs, en leur nom, par les dirigeants politiques français. Ce n'est jamais la liberté et la démocratie qu'ils viennent défendre, mais toujours les intérêts des Total, Bolloré, Dassault et compagnie. Mais les travailleurs turcs, de leur côté, auraient tout à perdre à se laisser séduire par les discours vengeurs d'un Erdogan. Erdogan est autant leurs ennemis que Macron. Il est le porte-parole d'une bourgeoisie turque qui maintient les salaires au plus bas et traque les travailleurs qui refusent de se laisser exploiter en silence. Erdogan emprisonne ses opposants politiques, à commencer par les militants ouvriers et progressistes. Au moment où les bruits de guerre se font entendre un peu partout sur la planète, au moment où les idées nationalistes et identitaires se répandent sur tous les réseaux sociaux, les travailleurs, qu'ils soient français, grecs, turcs, kurdes ou autres, doivent réaffirmer qu'ils forment une seule et unique classe sociale, celle des prolétaires qui font tout marcher dans la société. Ils doivent réaffirmer leur devise, forgée et diffusée par des générations de militants socialistes et communistes, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Les effets de la crise économique se répercutent sur tous les aspects de la vie sociale. Pour ne pas se laisser doubler par la droite et l'extrême droite sur le terrain de la sécurité, Macron et ses ministres ont déclenché une campagne nauséabonde. En parlant d'ensauvagement de la société, de séparatisme de certains quartiers, d'atteinte à la laïcité, ils utilisent volontairement le vocabulaire de Le Pen ou Zemmour. Ils stigmatisent avant tout les musulmans qu'ils assimilent sans nuance aux islamistes radicaux. Alors oui, il y a du séparatisme dans cette société.
Il y a d'un côté des ghettos de riches avec des prix de l'immobilier si élevés que les seuls smicards que l'on y rencontre, ce sont des travailleurs chargés de ramasser les poubelles ou de faire le ménage. Ces séparatistes-là ne posent pas de problème à Macron.
De l'autre côté, il y a les villes et les quartiers où vivent les premiers de corvée, les aides-soignantes,
les auxiliaires de vie, les livreurs
et tous ceux qui ont assuré le fonctionnement de la société pendant le confinement. Du fait du chômage de masse, de la précarité croissante et des salaires insuffisants, la vie quotidienne dans ces quartiers devient de plus en plus dure.
Cela devient
plus dur de nourrir sa famille, de payer ses loyers,
ses factures. Tous les responsables des associations caritatives en témoignent, les files d'attente s'allongent dans leurs locaux.
Alors bien sûr, il y a la délinquance, les violences gratuites, les trafics organisés qui pourrissent en effet la vie des habitants. Mais c'est avant tout l'aggravation de la pauvreté, l'absence d'avenir pour la jeunesse, l'impossibilité de trouver un emploi stable, auquel il faut ajouter le reflux des organisations ouvrières qui renforce et aggrave la violence des rapports sociaux. Alors ajouter du bleu dans les rues, comme le dit Darmanin, c'est-à-dire augmenter le nombre de policiers, ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Affichant leur mépris pour les jeunes et leurs parents. Toutes les difficultés vécues dans les quartiers populaires, Macron, Darmanin ou Schiappa s'en moquent. Pire, toutes leurs politiques les aggravent. Réforme de l'assurance chômage, démolition des retraites, baisse de l'APL. Toutes ces mesures ont aggravé les difficultés des chômeurs, des bas salaires, des précaires, des anciens. Macron et sa bande ne parlent des quartiers populaires que pour venir chasser des voix sur les plates-bandes de Le Pen et compagnie. Ils sèment un poison mortel, celui de la division entre les travailleurs selon leur origine, leur nationalité ou leur croyance ou leur couleur de peau. Eh bien, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Face à une crise parmi les plus violentes, face aux dégâts écologiques, face aux menaces de guerre, il n'y aura pas de solution sans renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Il ne suffira pas de changer le locataire de l'Élysée ou la majorité au Parlement. Il ne suffira pas de réécrire la Constitution ou de changer des lois. Il faudra mener un combat acharné, un combat difficile et sans merci, pour exproprier la bourgeoisie qui détient le véritable pouvoir sur la société, pour la simple raison qu'elle possède les capitaux. Depuis que les propriétaires de Bridgestone ont annoncé la fermeture de l'usine de Béthune, les élus locaux, les députés et même le ministre de l'économie pleurent en parlant d'un coup de poignard dans le dos. Mais leurs larmes de crocodile sont inutiles. À la fin, les actionnaires feront ce qu'ils veulent. Les élus et les ministres sont impuissants car ils s'inclinent devant la propriété privée. Ils se soumettent docilement ou hypocritement à la dictature du capital. Les dirigeants syndicaux, eux qui revendiquent la relocalisation des usines ou la réindustrialisation du pays, quant à eux, jouent les conseillers du grand patronat. Ils laissent entendre qu'il serait possible de convaincre les patrons de mener une autre politique, autant demander à un lion de devenir vegan. Pire, laisser entendre que les travailleurs pourraient avoir des intérêts communs avec leurs exploiteurs, c'est semer des illusions. Cela revient à désarmer les travailleurs. Les marchands d'illusions sont aussi de retour du côté des partis de gauche. À quelques mois des régionales, à 2 ans de la prochaine présidentielle, les grandes manœuvres ont commencé pour tenter de se répartir les postes et pour désigner
le meilleur candidat commun.
Génération après génération, la même pièce se reproduit, avec l'apparition de nouveaux acteurs quand les anciens sont trop usés, et quelques innovations dans le langage. Crise écologique oblige, ceux qui ont l'écologie pour fond de commerce, comme Jadot, revendiquent les meilleures places. Entre le PS et la France insoumise, c'est à qui sera le plus vert. Mais quel que soit celui ou celle qui émerge, les travailleurs n'ont rien à attendre d'une énième mouture de l'union de la gauche.
N'importe quel politicien, vert, rose ou même teinté de rouge, qui accédera au pouvoir, servira sans réserve les intérêts des capitalistes. Nous l'avons trop souvent expérimenté dans le passé et nous l'avons payé trop cher.
Nous le constatons autour de nous. Une majorité de travailleurs rejette non seulement Macron et ses alliés, mais finalement tous les partis, même la politique en général. Entre les angoisses dues à la situation de désorientation et la désorientation provoquée par des trahisons successives, le fatalisme l'emporte sur la révolte. La confiance dans tout ce qui vient de l'État est fidèlement perdue.
Les idées complotistes de toutes sortes polissent. Cela nous force la passivité et la résignation plutôt que la volonté de se battre.
Mais le passé l'a prouvé moult fois. Cet état d'esprit peut changer très vite. C'est parce que les attaques de la bourgeoisie ne s'arrêteront jamais que les opprimés finiront par se révolter. Mais quand ces révoltes éclateront, il ne suffira pas qu'elles soient dévoyées dans des voies de garage. Et pour l'éviter, les travailleurs devront avoir un programme de combat, un programme de lutte qui vise les vrais maîtres de la société, les capitalistes, et pas leurs larbins de l'appareil d'État. Ce programme, nous devons le faire connaître. Nous devons le rendre compréhensible en mettant en avant des objectifs simples et unificateurs.
Face au licenciement,
il faut répartir le travail entre tous les salariés sans diminution de salaire. Il faut travailler moins pour travailler tous.
Les travailleurs ne demandent pas la charité. Ils exigent un travail honnête pour tous, avec un salaire qui permette de vivre dignement.
Ils y ont un droit moral, car ils font fonctionner toute la société, du personnel hospitalier aux éboueurs, des caissières de grandes surfaces aux ouvriers des usines, aux conducteurs de bus, aux chauffeurs routiers, en passant par les cheminots.
Le pouvoir d'achat doit être protégé contre la hausse des prix par l'échelle mobile des salaires,
c'est-à-dire leur indexation sur les prix.
C'est le seul moyen d'éviter que les salariés soient transformés en miséreux, réduits à dépendre de la charité publique et privée. L'argent existe pour créer tous les emplois nécessaires pour maintenir les salaires et le pouvoir d'achat.
Les 100 milliards du plan d'urgence le prouvent, tout comme les fortunes des plus riches, accumulées grâce à notre travail, et qui doivent servir de garantie pour la survie de ceux qui produisent tout.
Alors aucune de ces revendications ne pourra être satisfaite, même partiellement, sans lutte collective profonde, explosive, sans lutte qui remette en cause le pouvoir de la bourgeoisie. Aucune de ces revendications ne pourra être obtenue par un bulletin de vote.
Pour mettre en œuvre ce programme de défense de leurs intérêts,
les travailleurs devront mettre leur nez dans les comptes et les affaires des capitalistes.
Ils devront passer par-dessus les lois qui protègent le secret des affaires et le secret bancaire.
Le sort des travailleurs, l'avenir de toute la société à plus ou moins court terme, sera tragique sans révolution sociale. Nous n'avons pas la garantie qu'une telle révolution soit victorieuse, ni même qu'elle éclate suffisamment vite pour enrayer la machine infernale du capitalisme. Mais nous avons le devoir de la préparer. Cela commence par regrouper autour de nous, dans un parti communiste et révolutionnaire, tous ceux qui refusent de se soumettre, tous ceux qui veulent faire leur la devise de la Première Internationale. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Alors,
Bon courage pour mener toutes ces discussions et en attendant, profitons ensemble des dernières heures de cette fête.